Alléluia. Pour celui qui est ressuscité des morts, alléluia. À celui qui a éclairé le monde, alléluia. Donc c'est les paroles de ce chant que vous venez d'entendre en arménien. Nous avons eu l'occasion d'entendre dans le cadre de notre voyage avec Francine, par un quintet de chanteuses vraiment merveilleuses, qui chantaient la gloire de Dieu dans un temple grec. Alors c'était vraiment un peu surprenant, mais c'était vraiment la chant à la gloire de Dieu. Alors j'ai envie de vous souhaiter la bienvenue dans ce culte, dans cette célébration mérinoise. Bienvenue aux habitués, peut-être bienvenue aux visiteurs. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous pour la première fois? Est-ce que vous osez un petit signe de la main? Non? Alors écoutez, il y a Arnaud. Alors bienvenue Arnaud. Donc aujourd'hui, le thème de notre culte est le pardon. Et le pardon, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose parfois de douloureux. Et c'est vrai que nous avons, c'est le thème de ce culte, nous avons réfléchi. C'est vrai qu'on a tous des pardons à recevoir, des pardons à donner. Et c'est pour ça que nous avons mis sur votre petite place, une petite feuille et un crayon. Parce que durant le culte, on vous suggère d'y réfléchir. Il y aura la prédication après de Benjamin. On vous suggère d'y réfléchir pendant le culte. Et puis peut-être de noter, bah tiens, là j'aurais besoin de ce pardon-là. Ou bien c'est vrai que je devrais moi-même donner ce pardon à cette personne. Alors, c'est facile à dire, plus difficile à faire. C'est pour ça qu'on vous laisse le temps du culte, et d'y marquer éventuellement sur cette petite feuille. Et puis après, lors de la Sainte Cène, nous allons vous proposer de venir symboliquement, de vous approcher de la croix, de vous approcher de la Sainte Cène, de la communion, par les rangées. Et puis de pouvoir, sur votre petit papier, si vous avez marqué quelque chose, de pouvoir y déposer, donc au pied de la croix. Je crois que c'est une démarche en douceur, je dirais, c'est une démarche intérieure. Donc on laisse le culte, le temps du culte, de pouvoir y réfléchir. Et puis s'il n'y a pas, il n'y a pas, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que s'il y a quelque chose qui vous pèse, de pouvoir le marquer et de pouvoir, lors de la Sainte Cène, y déposer au pied de la croix. Voilà. Je signale aussi qu'il y a le camp du Catay en déplacement. De quel côté, Roger ? Dans le milieu de la France, Baume-les-Mimosas. Alors nous pensons aussi à eux pendant ce culte. Nous pensons également à tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui pour des raisons de maladie ou pour d'autres raisons. En tout cas, ils sont en pensée avec nous. Et je vous propose d'invoquer le nom du Seigneur sur ce temps de communauté, ce temps aussi de pardon où on va être guidé durant ce temps par rapport au pardon. Alors Seigneur Jésus, nous voulons invoquer son nom. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce temps que nous avons en ta présence. Seigneur, nous voulons vraiment ta présence. Nous ne voulons pas faire un culte pour toi, mais nous voulons faire un culte avec toi. Parce que c'est toi qui nous parles, c'est toi qui nourris nos vies, c'est toi qui nourris notre être intérieur. Et Seigneur, c'est toi qui nous bénis. Alors Seigneur Jésus, nous voulons invoquer ton nom sur cette célébration, sur ce culte. Seigneur, que nous puissions entendre ta voix, Seigneur, entendre ce que toi tu veux nous dire, Seigneur. Que ce soit un encouragement, que ce soit une parole bénie ou une bénédiction, Seigneur, nous voulons entendre ta voix, Seigneur Jésus. Et merci parce que nous pouvons le faire dans le cadre de notre communauté. Merci parce que tu accueilles chacun d'entre nous aujourd'hui, ce matin. Et Seigneur, nous pouvons vivre ce temps entre frères et sœurs. Et Seigneur, merci pour cet amour, de ton amour pour nous, Seigneur Jésus, et de l'amour qui est entre nous. Alors Seigneur, nous voulons invoquer ton nom sur ce culte. Amen. Alors pour les enfants, donc Nicolas m'a dit qu'il y aurait une petite animation dans les locaux en dessous pour les 7, 6, 7, 12. Donc s'il y a des enfants qui veulent aller avec Nicolas tout à l'heure après la louange. Et puis il y a également la garderie, donc pour les petits. Si vous souhaitez laisser votre enfant un petit moment à la garderie pour participer au culte sur la partie pour les adultes, eh bien, vous aurez cette possibilité aussi. Et sans plus attendre, je laisse la parole à nos musiciens que je remercie déjà. Et Catherine va nous diriger dans la louange. Et merci aussi pour ce temps béni de la louange.
Bonjour. Alors, l'allonge, on va la faire tous ensemble. Et je vous propose un temps de louange où nous dirons simplement, au travers des chants qui ont été choisis, notre attachement au Seigneur. On veut faire effectivement ce culte avec le Seigneur, pour le Seigneur, avec lui. Et nous commencerons. Je ponctuerai un petit peu ce temps par quelques versets du psaume 25. Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte et que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Et oui, Seigneur, c'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. On peut se lever pour chanter notre Seigneur. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour.
Apprends-moi à t'aimer. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné.
Seigneur, parce que merci, merci de tout cœur, parce que c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui avais ce plan d'amour. C'est toi qui as offert ton Fils en sacrifice pour que nous puissions vivre dans la liberté, dans la confiance. Merci pour ta vie, Seigneur Jésus. Amen. Si quelques-uns veulent élever une courte prière vers le Seigneur. Amen.
Seigneur, merci. Tu m'as choisi. Et tu m'as cherché quand j'étais dans le monde. Et tu m'as comblé, Seigneur, de ta présence, de ta grâce et de ton nom. Seigneur, oui, comme je respire, Seigneur, je t'adorerai. Je te rendrai grâce. Et oui, Seigneur, comme je respire, au nom de Jésus.
Amen. Amen. L'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. C'est la suite du psaume 25. Je vous propose de terminer ce temps de louange en rendant gloire au Seigneur avec le 413. Gloire, gloire, gloire à l'agneau.
Gloire,
vous invite à vous rasseoir.
Voilà, peut-être, alors s'il y a quelques enfants qui veulent rejoindre Nicolas. Ah non. Alors nous allons procéder aux lectures. Et c'est Francine qui commence.
Dans Ésaïe 54, 1 à 10. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas enfanté. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Car il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi.
La deuxième lecture sera dans Ésaïe 53, versets 2 à 5. Devant le Seigneur, le serviteur a grandi. Comme une petite plante, comme une racine qui sort de terre. Il n'avait ni la beauté ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions. Nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous, nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et qui l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Est-ce que je peux prier pour toi, Benjamin ?
Volontiers.
Oui, Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre, Benjamin, toi, ces textes, la force de ces textes. Et Seigneur, j'aimerais que tu puisses parler au travers de lui, Seigneur, et merci pour sa réflexion, merci pour les paroles qu'ils vont dire en ton nom. Alors Seigneur Jésus, bénis-le Seigneur, et que nos oreilles soient attentives à ta parole. Et Seigneur, merci pour ce temps où il peut partager avec nous. Amen.
Amen. Merci.
Il y a 2 ans, j'ai fait un devoir sur un texte de Galates, et dans ce texte, Paul reprend l'histoire d'Abraham, de Sarah et d'Agar, et il cite le premier verset d'Ésaïe 54. La dernière fois, j'ai parlé de la fidélité de Dieu envers Abraham, et aujourd'hui, je vais parler de ce texte incroyable d'Ésaïe 54, qui nous annonce l'amour de Dieu fondé sur son pardon inconditionnel. le pardon. Le pardon dont nous avons tous besoin lorsque nous offensons quelqu'un, quand nous blessons un ami, nos parents, notre frère, notre conjoint. Le pardon que nous pouvons offrir parce que Dieu nous accueille tel que nous sommes. Pour comprendre la profondeur de ce texte, il me semble indispensable de voir comment ce texte s'inscrit dans son contexte historique et dans le contexte du livre d'Ésaïe. Je commencerai donc par un rappel historique, puis nous nous attarderons sur le texte qui vient d'être lu, pour troisièmement en tirer des conclusions pratiques. Vous verrez que ce texte a des similitudes avec l'histoire d'Abraham, d'Agar et de Sarah, que nous avons lu ensemble la dernière fois. Ce n'est pas par hasard si Paul les met côte à côte dans l'Épître aux Galates. Abraham a eu de nombreux descendants qui ont dû se réfugier en Égypte pour des questions de nourriture. Les années ont passé, les descendants sont devenus un peuple, et 400 ans plus tard, Dieu les a fait quitter l'Égypte pour aller en Canaan, la terre que Dieu leur avait promise. À l'entrée de Canaan, Moïse rappelle la loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Puis, il explique les bénédictions liées au respect de la loi et les malédictions qu'il y aura s'il l'entrave. Une des malédictions qui s'accomplit en partie durant la vie d'Ésaïe est celle-ci. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Puis, le peuple entre dans le pays de Canaan et s'y installe. Rapidement, ils mettent une monarchie en place. Au début, tout se passe relativement bien. Saül règne plus ou moins bien. David lui succède. Il marche dans les voies de l'Éternel. Puis c'est au tour de Salomon. Et après Salomon, c'est la catastrophe. Suite à sa mort, le peuple se divise pour former le royaume du Nord et le royaume du Sud, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Puis, il y a une succession de mauvais rois sur Israël, tandis qu'au Sud, les choses se passent un petit peu mieux. Et si on voulait résumer le contexte géopolitique durant la vie d'Ésaïe, on pourrait dire qu'au Nord, les mauvais rois se succèdent et l'envahisseur est toujours plus présent. Il y a deux vagues de déportations qui conduisent le pays à la destruction. Au sud, la situation n'est pas meilleure. Il y a tout d'abord un mélange entre culte de Dieu et pour les idoles, suivi par l'abandon du culte de l'Éternel. Sur les quatre rois qui règnent durant la vie d'Ésaïe, il y en a un cependant qui est très bon et qui suit de tout son cœur Dieu et incite le peuple à en faire autant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'Israël se détourne de Dieu, il se détourne aussi de la justice. Les deux vont de pair. Ainsi, les descriptions que font les prophètes de la société rappellent étrangement certaines situations actuelles. Les pauvres deviennent toujours plus pauvres, et les riches toujours plus riches. Les plus vulnérables sont opprimés, ceux qui sont en position dominante asservissent. On pourrait donc expliquer la situation dans laquelle vit Ésaïe avec les deux graphiques suivants. Au nord, plus l'idolâtrie augmente et perdure, plus l'envahisseur est présent. C'est également le cas au sud. La venue d'Ézéchias stabilise la situation, mais Ésaïe le prophétise. L'exil viendra aussi pour Juda. Donc leur infidélité, leur idolâtrie, conduit le peuple à l'exil, à être déporté, à partir loin du pays de Canaan. Lisons un texte en Ésaïe 49 qui illustre ce que je viens de dire. Vous pouvez relever les paroles qui rappellent l'exil, qui montrent que Jérusalem sera ravagée. Elles sont en gras sur l'écran. Sion. Donc Sion, c'est un autre nom pour Jérusalem. Sion disait « L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent à toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en ceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, « L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. » Et tu diras en ton cœur, « Qui me les a engendrés ? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés ? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils ?» Ce texte parle de Jérusalem comme d'une femme qui s'est détournée de Dieu. Elle était loin de lui, sans habitants, parce qu'elle était en exil. Mais, chose incroyable, elle a des enfants. Comment une femme seule pourrait-elle avoir des enfants ? Comment Jérusalem, Israël, qui était infidèle à Dieu, pourrait retrouver sa prospérité ? Mieux encore, avoir plus d'habitants qu'auparavant ? Et ce texte pose une bonne question. Qui ? Qui me les a engendrés ? Qui les a élevés ? Nous n'étions pas très différents des Israélites. Et nos transgressions envers Dieu méritaient un châtiment aussi grand que le leur. Nous étions condamnés à vivre loin de Dieu, loin de sa face, et à aller pourrir en enfer. Mais Dieu a choisi de nous pardonner. Je le redis une fois et je vais l'expliquer. Dieu a choisi de nous pardonner. Il vous pardonne, même des pires bourdes de votre vie, celles dont vous n'avez jamais osé parler à personne. Il me pardonne, même si je me sens impardonnable. Et il a montré cela avec l'histoire de son peuple qui part en exil et qui revient. Dans ce passage, il l'illustre d'une manière très forte, le mariage. Son peuple est sa bien-aimée, sa femme, son épouse, et elle l'a trompé. Elle est allée vers d'autres hommes. Pire, elle est allée se prostituer, espérant tirer quelque chose de son idolâtrie. Et lorsque nous nous détournons de Dieu et que nous allons chercher à combler nos besoins ailleurs, nous agissons comme Israël, qui se prosternait devant les idoles. Mais Dieu nous pardonne. Et je trouve cette image du couple tellement forte. Imaginez un homme qui se fait tromper par sa femme. Ma réaction instinctive, c'est « il faut qu'il la mette dehors. À quoi bon vivre avec une telle femme ?» La réaction de Dieu est tout autre. Il va la chercher. Il la pardonne. Et ce pardon a un coût terrible. Cela lui coûte son fils unique. Juste avant notre texte, il y a Ésaïe 53. Ce texte est souvent lu à Pâques ou à Noël, car c'est, je crois, la prophétie qui annonce le plus clairement l'œuvre de notre Seigneur. Et je vais relire les quelques versets que Claude a lus. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et ce texte nous parle de Jésus. Et s'il a fait tout cela, c'est pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Lisons encore quelques versets dans le Nouveau Testament, en Philippiens 2, versets 6 à 8. Philippiens 2, versets 6 à 8. Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus, Dieu venu de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé. Celui qui, de son trône éternel, a fait les cieux et la terre avec le Père et l'Esprit. Lui, régnant dans la gloire, a accepté de quitter sa gloire pour venir sur terre. Il quitte la splendeur de son ciel et s'exile sur terre. En faisant cela, il a vécu l'exil que le peuple de Dieu méritait. Il a pris le châtiment que nous méritions. Il l'a fait afin que nous puissions rentrer au pays, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. À nous de dire oui. À nous d'accepter le pardon de Dieu pour être sauvés. La question de qui est donc essentielle. C'est le serviteur de l'Éternel, ou de son nom plus connu, c'est Jésus, qui rachète et fait prospérer son peuple. Jérusalem est exilée, nous sommes exilés, mais en Christ, la situation peut changer. Et pour comprendre le texte d'Ésaïe 54, il y a deux questions cruciales à se poser. La première, c'est de qui parle ce texte ? Et la deuxième, c'est à quels événements fait-il référence ? Nous l'avons vu en lisant le texte d'Ésaïe 49. Ce texte parle de Jérusalem et il fait référence à l'exil. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas enfanté. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Pourquoi Jérusalem doit-elle se réjouir ? Parce qu'elle aura de nombreux fils. La ville qui a été dévastée sera repeuplée de manière miraculeuse. Même si elle est détruite, même si sa population a été déportée, elle sera reconstruite et habitée. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire d'Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham. Il aura un fils. Impossible ! Il est déjà vieux, et sa femme aussi. Mais de manière surnaturelle, par la main toute puissante de Dieu. Il devient père alors qu'il est âgé de 100 ans. Sarah lui donne un fils alors qu'elle a 90 ans. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu répandras à ta droite et à ta gauche. Ta prospérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Dieu ne se contente pas de donner un ou deux fils. Non, un peuple nombreux va se rassembler à Jérusalem. Il y a deux accomplissements à cette prophétie. Le premier, partiel, c'est lorsqu'Israël est rentré d'exil en 538 avant Jésus-Christ. Le deuxième accomplissement, c'est lorsque Christ est venu sur terre et qu'il a appelé toutes les nations à sa suite. Abraham aura une descendance nombreuse en vertu de la promesse et de la fidélité de Dieu à son alliance. Si Jérusalem doit élargir sa tente, c'est parce que nous, chrétiens, venons de toutes les nations pour devenir citoyens de la Jérusalem céleste. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Pourquoi avoir peur ? Pourquoi craindre ? Dieu a parlé, et sa parole s'accomplira, même si cela semble plus qu'improbable, même si cela semble impossible. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Dieu, ton Créateur, est ton époux. Qui pourrait la séparer de son amour ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée ? Non, Dieu est plus puissant que les Babyloniens. Il est plus puissant que toutes les armées de la terre, car c'est lui l'Éternel des armées. Il viendra secourir son peuple. Et avant de passer à l'application, qu'est-ce que ce texte peut nous induire à faire ? Je vais faire un petit résumé. Premièrement, ce texte nous parle d'Israël qui est parti en exil à cause de son péché et que Dieu fera revenir de Babylone. Notre situation est semblable à celle d'Israël car nous avons aussi péché contre Dieu. Et troisièmement, Christ s'est fait exiler à notre place pour nous offrir le pardon, afin que nous devenions citoyens de la Jérusalem céleste. Et nous arrivons à la partie la plus difficile. C'est le pardon. Accepter le pardon inconditionnel de Dieu, ce n'est pas facile. Mais offrir un pardon inconditionnel, je crois que c'est encore plus difficile. Alors examinons pourquoi, jusqu'où et comment offrir le pardon. Pourquoi pardonner ? Il y a deux raisons pour lesquelles nous devons le faire. La première, c'est parce que Dieu l'a fait. Lui, notre Maître, notre Créateur, notre Sauveur, notre Roi, notre Père, notre Exemple, notre Guide, notre Lumière, notre Ami. Il nous a pardonné alors que nous ne le méritions pas. Face à un tel acte d'amour, comment pourrions-nous garder notre colère contre quelqu'un ? Et la deuxième raison, c'est parce que nous sommes citoyens de la Jérusalem céleste. Jérusalem est notre mère. Nous sommes nés de nouveau. Notre identité, notre culture, notre manière de vivre doit s'adapter à notre nouvelle condition. Si je vais habiter à New York ou à Shanghai, je dois m'adapter à la culture locale. De la même manière, il nous faut apprendre à vivre selon les coutumes de la Jérusalem céleste. Or, dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus de disputes, plus de colère, plus de larmes. Les gens s'aimeront à la perfection. Nous allons le faire pendant l'éternité. Et l'apprentissage commence déjà maintenant. Alors, s'il faut pardonner, c'est parce que Dieu nous a pardonné le premier et que nous sommes citoyens de la Jérusalem céleste. Jusqu'où pardonner ? Nous l'avons vu, Dieu a utilisé l'image de la femme infidèle. Alors, je ne veux pas aborder la question complexe, difficile, douloureuse de que faire lorsqu'il y a infidélité dans le couple. Mais ce texte nous montre qu'il y a de la place pour le pardon, même pour les fautes les plus graves. Jusqu'où pardonner ? Je crois que la réponse, il me coûte de le dire et je prie que Dieu me rende capable de le faire. La réponse, c'est qu'il faut tout pardonner, même les fautes les plus graves. Et cela nous amène à la troisième question : comment pardonner ? Et tout d'abord, le pardon, c'est difficile. Pour nous pardonner, Dieu a envoyé son Fils. Dieu est venu lui-même, a souffert pour pouvoir nous pardonner. Et je crois que dans bien des cas, cela nous coûte. Cela peut être un coût émotionnel, un coût matériel. Dans mon cas, cela m'impose bien souvent de laisser de côté mon orgueil. Cela me demande de l'humilité. Pardonner, cela veut dire reconnaître d'avoir été offensé et ne pas tenir rigueur pour cette offense. Cela implique aussi que lorsque nous offensons quelqu'un, il nous faut reconnaître cette offense et aller lui demander pardon. Comment pardonner ? Une chose qui peut nous aider en tant que chrétiens, c'est que le pardon, c'est juste. Lorsqu'un tort est fait, cela nécessite une réparation. Si je reçois un coup de bâton injustement, la personne qui me l'a infligé devrait, elle aussi, recevoir un coup de bâton. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ a déjà reçu le coup de bâton. Il a déjà payé pour la personne à qui je pardonne. Donc si je pardonne à quelqu'un, la faute ne disparaît pas, mais Christ l'a portée. C'est Christ qui apporte la justice. Comment pardonner ? Le pardon est un acte actif. C'est nous qui avons offensé Dieu, et pourtant, c'est Dieu qui fait tout pour que nous acceptions son pardon. Est-ce que cela ne devrait pas nous inspirer dans nos relations ? Oui, tu m'as offensé. Non, je n'ai rien à me reprocher, mais je vais venir te voir. Je vais te chercher à plusieurs reprises. Je vais maintenir la relation pour te proposer mon pardon. Et comme nous envers Dieu, la personne en tort est libre de recevoir ou non le pardon. Elle est libre de demander pardon. Bien sûr, la réalité est souvent plus complexe. Il est rare que le tort soit seulement d'un côté, par exemple. Et cette attitude demande de la délicatesse et de la douceur. Alors, pardonnons, pardonnons, et pardonnons encore. N'ayons pas peur de trop pardonner à quelqu'un. Et que cette attitude soit motivée par le fait que Dieu nous a pardonné le premier. Autrement, nous n'y arriverons pas. Et il nous reste encore 4 versets à lire ensemble. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Car il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. L'œuvre de Christ, le pardon de Dieu, nous fait entrer dans son amour. Le pardon est la première étape pour entrer dans cette relation d'amour. Et il nous pardonnera autant de fois que cela sera nécessaire. De même qu'il a juré de ne plus inonder la terre, de même, il jure de ne plus s'irriter contre son peuple, contre ses fils, contre les citoyens du royaume, de la Jérusalem céleste. Alors, approche-toi de Dieu, demande-lui pardon et reçois son pardon. Il te pardonne. Dieu me pardonne. Dieu nous pardonne. Ne sois pas orgueilleux. C'est le moment. Et je le répète encore une fois parce que c'est vraiment fondamental. Approche-toi du Christ, car Dieu te pardonne. Approche-toi des autres et pardonne-leur. Pardonne à ta femme, pardonne à ton mari, pardonne à ton fils, pardonne à ta fille, pardonne à tes collègues, à tes voisins, à tes amis. Pardonne à l'Église, pardonne aux autres chrétiens, pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pourquoi ? Parce que notre pardon est bâti et nourri de l'amour de Dieu. Son amour nous donne le cadre nécessaire, une sécurité suffisante pour ne pas garder rancune les uns contre les autres. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, nous dit Dieu, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi.
Je vous propose de prendre un temps de Sainte-Cène. J'aimerais l'introduire par Colossiens. Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ, mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé Christ de la mort. Vous, vous étiez morts à cause de vos fautes, et aussi parce que vous n'étiez pas circoncis. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Et il l'a détruite en le clouant sur la croix. Alors, c'est vrai que le pardon de Dieu pour nous, pour chacun de nous, a été accordé au prix de la souffrance. C'est cette souffrance, dans le cadre du pardon, aussi bien du pardon à donner que du pardon à recevoir. Et pour Dieu, comme l'a dit Benjamin, était au prix de la souffrance de son Fils, du Christ, qui est mort sur la croix. Alors la Sainte Cène que nous allons prendre aujourd'hui, effectivement, est le signe de la souffrance du Christ, de la mort du Christ. Mais c'est aussi le signe du plan de Dieu, du plan de pardon de Dieu pour l'humanité. Donc il y a ce côté effectivement du souvenir de cette souffrance, mais il y a aussi à se souvenir que le plan de Dieu, c'est le pardon pour chacun d'entre nous. Alors ne prenons pas ce repas aujourd'hui comme un repas de douleur, mais comme un repas de pardon que Dieu nous adresse à chacun d'entre nous. Et c'est pour cette raison que pour ce pardon, il faut l'accepter, il faut le prendre, il faut s'en accaparer, il faut le saisir. Et c'est un petit peu pour cette raison que nous souhaitons que vous vous approchiez, une fois qu'on aura fait la lecture, vous vous approchiez par les allées latérales pour pouvoir vous approcher aussi de cette croix, de ce pardon que Dieu a offert et qui est un signe pour notre vie, un signe de vie de ce plan de Dieu. Et puis si vous le souhaitez, donc je vous ai parlé de cette petite feuille avec ce crayon, si vous avez quelque chose vraiment qui vous pèse, ce sera aussi l'occasion d'aller à ce moment-là, de le poser vers la croix. Alors, je vous propose que nous lisions l'institution de la Sainte Cène.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour.
Seigneur, nous te remercions de ce signe que tu nous donnes, de la Sainte Cène, où nous pouvons nous approcher tels que nous sommes. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu nous acceptes. Tu nous nourris, tu nous pardonnes. Amen.
Alors nous allons, je vais demander peut-être à deux personnes de venir nous aider. Donc nous allons distribuer la Sainte Cène devant l'estrade. Donc comme à notre habitude, les petits gobelets roses sont sans alcool. À l'extérieur, c'est du vin. Et puis ceux qui veulent la coupe, il y aura quelqu'un au milieu entre nous qui aura la coupe. Et après, donc, vous pouvez sans doute passer vers la croix. Et si quelqu'un a un sujet, a une prière ou un chant, alors volontiers, vous sentez libre. Et vraiment vivez cette Sainte Cène comme ce plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Ce plan de Dieu de pardon et de vie. Et merci, c'est avec beaucoup de reconnaissance par rapport à la mort du Christ, ce sacrifice pour que nous ayons la vie. Alors si deux personnes peuvent nous aider. Peut-être commencer par le fond. Vous venez par les allées centrales et vous ressortez par l'allée latérale. Voilà, le repas est prêt. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, faites-nous signe et puis nous viendrons vers vous.
On vous propose de chanter avec nous le chant qu'on a chanté pour la, après, juste après, qu'on a joué juste après la méditation, c'est le 439 pour la projection.
Où sont enfouies mes fautes, où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier? Je tressaille déjà.
Au Seigneur Jésus, merci pour ce temps de Sainte Cène. Merci pour ce temps où nous partageons ensemble ton corps et ton sang. Et Seigneur, merci parce que tu as pris sur toi, toi qui étais méprisé, Seigneur, en fait, toi, tu étais l'œuvre de notre salut. Alors Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci aussi pour ce plan de Dieu, Seigneur, qui veut que nous soyons pardonnés et nous soyons, Seigneur, tes enfants. Alors Seigneur Jésus, merci pour ce temps que nous pouvons vivre avec toi et aussi dans le cadre de notre communauté. Merci pour cet amour qui nous unit. Amen. Voilà, je vous propose un temps d'offrande. Alors nous allons reprendre un chant, je ne sais plus le numéro.
940.
Donc comme d'habitude, il va être affiché. Je vous demanderai de vous lever.
Seigneur, merci parce que nous avons ce privilège de pouvoir partager. Et si nous pouvons partager, Seigneur, c'est parce que toi, tu nous donnes. Alors, Seigneur, que cette offrande puisse être utilisée pour ceux qui en ont besoin et à travers cette offrande qui puisse être bénie, Seigneur. Et surtout, que nous n'oublions pas, Seigneur, de partager ce que toi, tu nous as donné, cet amour et ce pardon inconditionnel. Bénis, Seigneur, ceux qui vont recevoir cet argent dans leur activité, Seigneur. Amen. Je crois qu'il y a les annonces.
Alors, voilà, un peu de jalousie. Ils sont installés dans le midi de la France, notre équipe de jeunes de Cathé. Et donc, on vous invite à prier pour ces jeunes pendant les camps. C'est souvent un moment clé dans leur parcours de foi. Samedi prochain, il y a ce spectacle qui est proposé à Saint-Genis Et c'est, l'idée, c'est aussi de présenter une œuvre qui, une œuvre d'entraide, une œuvre qui cherche à donner des logements aux sans-abri. Donc, les explications utiles seront données lors de la soirée, juste avant le spectacle, samedi prochain. Il y a le camp Credo, c'est un long week-end à Unsprunnen. Le thème de cette année, c'est les 10 commandements. C'est encore temps de s'inscrire, les brochures sont sur à la sortie. Le fil d'argent. Le fil d'argent propose une rencontre mardi en 8, 14h30, comme vous voyez, il y aura chant, il y aura témoignage de Benjamin, et puis il y aura aussi, comme d'habitude, un bon goûter. Vendredi 30, nous poursuivons notre réflexion sur la question de l'homosexualité avec un orateur qui nous vient de la fac de Vaux-sur-Seine. Et donc, nous sommes tous invités pour être mieux équipés de savoir comment vivre cette question de société dans notre communauté. Donc, on vous est invité pour le vendredi 30 octobre. La kermesse s'approche. C'est aussi la possibilité d'apporter, de donner des objets que nous voulons nous séparer. Et c'est la kermesse, bien sûr, c'est en faveur du CEPOM, de l'entretien de leurs locaux. Nous serons présents aussi par un stand de librairie, de livres chrétiens. Et puis, et également avec une animation pour les jeunes, les enfants. Notre fédération, notre famille d'église s'appelle la FREI, la Fédération romande d'église évangélique. Chaque année, il y a une journée où nous sommes encouragés à nous retrouver tous ensemble de la cinquantaine d'églises qui sont représentées. Cette année, à nouveau, c'est à Yverdon et nous avons les invitations aussi à disposition à la sortie. Et voilà, il y a une... Nouvellement arrivé au milieu de nous, un petit-fils pour Hans et Franziska Nold. Le petit garçon s'appelle Benjamin. Il y a eu une collision de dates entre le mariage de leur fils et l'arrivée de leur petit-fils, mais tout s'est très bien passé. Je dois aussi laisser la parole à Béatrice qui a une communication à faire concernant les paquets de Noël qui sont maintenant en préparation.
Alors bonjour à toutes et à tous. D'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont hier collaboré à notre collecte auprès de la population mérinoise, notre collègue donc action de paquet de Noël pour les pays de l'Est. Une action qui s'est bien déroulée, puisque la population a été généreuse malgré les difficultés actuelles économiques qu'on a constatées hier. Et nous avons donc pu finaliser et emballer sur place 20 cartons et il y en aura une quinzaine encore, dont il manquera un ou peut-être deux produits. Donc, c'est presque 35 et 40 cartons à faire. Alors, c'est vraiment magnifique. Et maintenant, j'aimerais aujourd'hui donc, vous parler de notre collecte à nous, au sein de notre communauté, qui va débuter donc dimanche prochain, 25 octobre et qui durera jusqu'au 15 novembre compris, donc 4 dimanches. Et dès que je regarde un petit peu mes papiers, je m'excuse. Donc je voudrais aussi vous rappeler que cette collecte est en faveur de 7 pays d'Europe de l'Est, soit l'Albanie, la Bulgarie, la Biélorussie, la Moldavie, Roumanie, Ukraine et Serbie. Ce sont des personnes, ils sont dédiés ces paquets à des personnes qui vivent dans une grande précarité. Ils sont souvent sans chauffage, sans eau courante, sans électricité et à des températures qui l'hiver descendent facilement jusqu'à moins 15 degrés, dont on s'imagine les conditions de vie de ces personnes si difficiles. Alors ces paquets que vous allez pouvoir leur offrir leur signifie aussi, il ne faut pas, que ce ne sont pas des oubliés. Ça leur donne de l'espoir de continuer. Et ce sont des produits de première nécessité et aussi tant de douceur qui vont leur permettre de pouvoir fêter Noël, eux aussi, dans la joie et la dignité. Donc, à la sortie du culte, déjà, vous pourrez vous servir de feuillets. Servez-vous généreusement. Et sur ces feuillets, il y a déjà la composition des paquets dont vous avez l'habitude pour la plupart d'entre vous, que vous pourrez donc déjà amener des produits dimanche prochain, puisque les tables seront disposées là, au fond de la salle. Et je mettrai évidemment sur le tableau aussi, comme chaque année, des tickets que vous pourrez donc dimanche prochain tirer afin d'avoir ce petit ticket, de vous faciliter la vie, de pouvoir le mettre dans votre porte-monnaie lors de vos courses et de savoir ce que vous allez offrir comme don. J'aimerais, pendant que j'y pense, vous rappeler que quand vous tirez un ticket friandise, l'année passée, on a reçu plusieurs pots de confiture ou de miel. Non, ça ne fait pas partie de la composition de ces paquets à cause de certains problèmes de douane. Donc, s'il vous plaît, offrez plutôt des bonbons, parce que les enfants seront très contents, ou des barres chocolatées, des choses comme cela. Voilà, j'aimerais, si c'est possible, vous demander à des hommes forts, s'ils auraient la bonté, de m'installer après le culte, deux ou trois tables, justement, comme chaque année, au fond de la salle, pour que je puisse préparer tout cela cette semaine avec de jolies nappes et toutes les denrées qui nous restent dans notre collecte d'hier dans la journée. Voilà, je vous remercie.
Voilà, nous arrivons au terme de notre culte. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué. Benjamin, notre prédicateur. Francine qui m'a accompagné aussi dans l'animation. Lorraine, Anne-Claude, Joël et Catherine pour la musique. Aussi Raymond et Rebecca qui ont fait la sono et la visualisation. John qui a préparé toute la table. Les fleurs, merci beaucoup. Ainsi que le sonneur de cloche. C'était toi, Denis ? Alors merci au sonneur de cloche. Et puis je vous propose de vous lever pour recevoir la bénédiction.
Le pardon de Dieu nous libère. Et comme bénédiction, je vais reprendre la salutation de Paul aux Corinthiens. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.